Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le Saint-Père a reçu dans la matinée de vendredi les mouvements et associations qui ont participé en 2024 aux Arènes de la Paix à Vérone, une initiative qui vise à réunir des personnes, des associations et des mouvements engagés dans la construction de la paix à travers la non-violence en Italie et dans le monde. Et les jubilés de la famille, des enfants, des grands-parents et des personnes âgées a débuté ce vendredi et se poursuivra jusque dimanche avec la grande messe que présidera le pape sur la place Saint-Pierre. Nous irons à la rencontre de quelques pèlerins venus prendre part à cet événement. Les combats entre les forces armées loyales au général Abdel Fattah al-Burhani et la dissidente paramilitaire Force de soutien rapide continuent de faire rage au Soudan. Les paramilitaires qui ont revendiqué jeudi la reprise des deux villes stratégiques de la région de Kordofan dans l'ouest du Soudan. Nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique. Les péripéties sociales des enfants africains, cas de la République démocratique du Congo, c'est l'intitulé d'une conférence qui a eu lieu jeudi 29 mai au sein de la Faculté des sciences sociales de l'Université pontificale grégorienne avec le patronage du diocèse de Rome. Nous en parlerons avec le père Pierre Kabongo Nkishi, un des organisateurs de cet événement. Ce sera tout pour le titre, les détails dans quelques instants.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
Nous le disions, le pape a reçu vendredi matin au Vatican les 300 délégués d'associations et de mouvements qui ont participé en 2024 aux Arènes de la Paix à Vérone. Ce fut l'occasion pour Léon XIV de les remercier pour leur engagement quotidien en faveur de la paix et de souligner combien la société avait besoin de témoins d'un style de vie non violent. Dans un monde trop violent, les jeunes ont besoin d'exemples de paix, a affirmé Léon XIV. Les précisions sur place de notre envoyé Xavier Sartre.
Qui mieux que ceux qui ont subi l'injustice et les victimes de la violence pour devenir les protagonistes les plus crédibles de processus non violents de construction de la paix? Léon XIV compte beaucoup sur les associations et les mouvements populaires pour être des levains d'unité, de communion, de fraternité dans un monde trop violent. Pour le pape, les enfants et les jeunes ont besoin d'expériences qui éduquent à la culture de la vie, du dialogue, du respect réciproque, de témoins d'un style de vie différent. Non violent. L'objectif principal, c'est bien sûr construire la paix. Alors pour y parvenir, il faut désarmer les cœurs, les regards, les esprits et dénoncer les injustices d'un système qui tue et qui se base sur la culture du déchet, affirme Léon XIV. Il faut se mettre du côté des victimes, partager leur point de vue grâce à des cœurs et des esprits entraînés et formés à l'attention envers l'autre, capable de reconnaître le bien commun dans le contexte actuel. Mais cela prend du temps, reconnaît le Saint-Père, d'autant que la paix authentique n'est en fait possible que quand les différences et la conflictualité qu'elles entraînent ne sont pas supprimées, mais reconnues, prises en compte et surmontées.
La conférence des évêques catholiques du Kenya a condamné les meurtres brutaux du père James Maina Ndegwa et du père Alois Cheruiyot Bett qui ont eu lieu à quelques jours d'intervalle au mois de mai. Dans une déclaration transmise à Asia Afrique, les évêques catholiques du Kenya ont décrié ce meurtre qui, selon eux, était empreint d'intentions malveillantes et de mystère. Nous sommes très préoccupés par le fait que ces deux décès ont été commis avec une intention malveillante voilée et qui sont mystérieux. Nous souhaitons décrier la mort de ces ministres des dieux et le sentiment d'insécurité et d'impuissance créé par de tels incidents contre les serviteurs des dieux, ont déclaré les évêques dans un communiqué signé par leur président, Mgr Maurice Mwatia Makumba, de l'archidiocèse catholique de Kisumu. La famille est sacrée. Célébrer les jubilés des familles rappelle que tout part de cette base sans laquelle tout peut chavirer. C'est ce que soulignent trois femmes d'origine congolaise vivant en France. Elles font partie du mouvement des mamans catholiques. Elles ont fait le déplacement de Rome pour les jubilés des familles qui a lieu ce week-end. Écoutons tour à tour Blandine Mbuyamba, Angèle Mananga et Monique Simone Obama.
Le jubilé des familles, pour nous, c'est le renouveau spirituel. C'est la naissance pour les familles que tout se renouvelle. La foi en lui-même, déjà, ce jubilé de l'espérance est marqué par le renouvellement du pardon, de l'unité des familles. Déjà, le fait de vivre un pèlerinage en famille. Je pense que c'est très important. Et ce jubilé donne cette occasion aux familles ensemble, les familles ensemble, mais aussi vivre la même expérience. Je pense que c'est merveilleux pour notre Église.
En tout cas, la famille est sacrée, déjà. Hein?
Donc d'abord, la famille, c'est un soubassement de tout. C'est de la famille que sort tout être. Et si la famille n'est pas solide, n'est pas bien basée, et les individus comme les valeurs, s'ils ne sont pas ancrés dès le départ dans la famille, s'ils ne sont pas bien structurés, bien orientés, donc tout chavire.
Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Toujours dans le cadre du jubilé sur la famille, une délégation des pèlerins chargée de la pastorale dans ce secteur au sein de l'église du Cameroun a traversé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre dans la matinée de vendredi 30 mai. Dans une interview à Radio Vatican, le père Florent Zentongo, aumônier général de l'apostolat des laïcs au sein de la conférence épiscopale, a donné ses impressions.
Action de grâce et gratitude au Seigneur pour la délégation du pèlerinage romain 2025, le pèlerinage de l'espérance et en ce mois de mai réservé spécifiquement aux familles. Quand nous parcourions l'itinéraire du pèlerin sur la Via della Conciliazione et en entrant dans la Porte Sainte, nous étions tout joyeux, comme dit le psaume, nous voici devant tes portes, Jérusalem, et notre cœur est dans la joie. Nous portions en entrant dans la Porte Sainte les intentions de prière de notre pays, le Cameroun, qui en cette année 2025 rencontrera des échéances importantes pour la suite de sa vie politique. Nous portions toutes les familles, nous portions nos pères les évêques, nos confrères les prêtres, les catéchistes, bref, notre église particulière du Cameroun dans toutes ses composantes.
Le père Florent Zentongo, aumônier général de l'apostolat des laïcs au sein de la conférence épiscopale du Cameroun. Des propos recueillis par Marie-Josée Moindo. Place à présent l'actualité sociopolitique sur les continents. Les combats entre les forces armées loyales au général Abdel Fattah al-Bourhaneh et la dissidente paramilitaire Force de soutien rapide continuent de faire rage au Soudan. Les paramilitaires qui ont revendiqué jeudi la reprise de deux villes stratégiques de la région de Kordofan dans l'ouest du Soudan. Par ailleurs, c'est désormais à deux types de menaces que les Soudanais sont confrontés. Une épidémie de choléra qui se propage notamment dans la capitale Khartoum en raison du manque d'accès à l'eau propre. Les explications de notre correspondante régionale, Augustine Passilli.
Forte de deux victoires hier sur les villes de Dideibat et Dalhoei, toutes deux situées dans la région du Kordofan, dans l'ouest du Soudan, les forces de soutien rapide poursuivent leur offensive sur El Obeid. Ce vendredi matin, les paramilitaires ont ainsi bombardé deux hôpitaux et des quartiers résidentiels de la capitale du Nord Kordofan. L'armée est parvenue en février à briser le siège qui asphyxiait El Obeid depuis le début de la guerre il y a deux ans. À 400 km de là, les troupes régulières du général Abdel Fattah al-Burhan ont annoncé la semaine dernière contrôler l'intégralité de l'état de Khartoum après avoir déjà libéré, selon leurs mots, la capitale fin mars. Mais cette victoire militaire s'accompagne d'une autre bataille contre une menace sanitaire. Une épidémie de choléra progresse en effet rapidement dans une capitale quasiment privée d'accès à l'eau propre et dont le système de santé a été lourdement affecté par les combats. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Santé recense 45 morts pour la seule journée de mardi, puis 25 nouveaux décès mercredi. Depuis le mois d'août 2024, le Soudan a enregistré plus de 65 000 cas suspects de choléra. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Le bilan des inondations ayant touché mercredi soir la ville de Mokwa dans le centre du Nigeria est passé à au moins 88 morts après la découverte de nouveaux corps vendredi, a déclaré Hussaini Isha, responsable des opérations de l'Agence nationale de gestion des urgences dans l'état de Niger. La montée des eaux a emporté plus de 50 maisons avec leurs habitants, a-t-il ajouté. Selon la SEMA, le bilan pourrait encore s'alourdir alors que les secours sont toujours à pied d'œuvre. Les élections municipales, initialement prévues les 10 juillet au Togo, ont été repoussées au 17 juillet sur demande de plusieurs acteurs politiques, a indiqué jeudi le gouvernement dans un décret édicté par le ministère de l'administration territoriale. Les acteurs politiques réunis au sein du cadre permanent des concertations CPC, une plateforme de discussion qui regroupe les partis au pouvoir et plusieurs partis de l'opposition, avaient demandé lundi ce report pour avoir notamment plus de temps pour déposer leurs dossiers. L'Assemblée nationale congolaise a autorisé jeudi l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement de près de 20 millions de dollars destinés à l'indemnisation des victimes de la Deuxième Guerre de la République démocratique du Congo. L'affaire tourne autour d'un projet de construction d'une prison à Kisangani, au nord-est du pays, pour un budget de près de 40 millions de dollars. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics en confiant les travaux à une très jeune entreprise, mais aussi de lui avoir versé la moitié du montant des travaux, soit environ 20 millions de dollars, sans l'approbation de la première ministre. Les péripéties sociales des enfants africains, cas de la République démocratique du Congo, c'est l'intitulé d'une conférence qui a eu lieu jeudi 29 mai au sein de la faculté des sciences sociales de l'Université pontificale grégorienne. Le père Pierre Kabongo Nkishi, pour nous parler de cet événement et de la portée de cette thématique, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier.
L'activité est une attention vive et vivante pour les enfants, en faveur des enfants. Nous les avons à Kinshasa et à travers le pays sur la rue. Nous les avons qui sont exploités dans l'exploitation des minerais rares. Nous les avons qui sont orphelins, qui sont abandonnés, qui vivent des situations de pauvreté parfois indicibles, hein. Et pourtant, la famille est basée sur ça, sur les enfants. Mais le futur de la société est aussi sur les enfants. Donc, vous comprenez que c'est une question qui devient non seulement sociétaire au niveau de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout au niveau mondial. On en a parlé, la dénatalisation que l'Occident est en train de vivre, c'est pas une bonne chose en faveur de la vie, même pas en faveur des relations intercommunautaire, même pas au niveau des valeurs géopolitiques. Les enfants d'abord, les enfants toujours, parce qu'ils constituent le futur de la société et le futur de l'Église. À l'université grégorienne, le thème des enfants est un thème qui touche fondamentalement à la vie telle qu'elle est perçue en Afrique. Et c'est un thème qui devient transversal dans la spécialisation des différentes disciplines académiques. Je veux simplement dire ceci. Quelqu'un a dit quelque part que science sans conscience est ruine de l'âme, non? Mais moi, j'ai dit simplement ceci. Science sans respect de la vie, à la centralité de Dieu, est vraiment ruine de la vie elle-même. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est aussi pour pouvoir ouvrir large les horizons afin que chaque discipline de spécialisation à cette université puisse avoir quelque chose à aller tirer de la tradition et de la religion africaine. Ces éléments que nous relevons, moi je ne dis pas que notre culture elle est la meilleure, je dis simplement qu'elle a des valeurs, elle a des éléments qui sont suggestifs du point de vue humain, du point de vue scientifique et du point de vue académique. Voilà, ça c'est l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire ici.
Le père Pierre Kabongo Nkishi, prêtre d'origine congolaise. Et pour clôturer cette édition, notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine avec Stanislas Kambashi.
Dans ce tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine, commençons par Gaza, en proie à une grande crise humanitaire. Un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a affirmé vendredi que Gaza est l'endroit le plus affamé au monde, où 100% de la population est menacée de famine. Jens Laerke l'a déclaré lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève, réfutant l'affirmation du contraire par les autorités israéliennes. Par ailleurs, va-t-on vers un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? C'est en tout cas ce qu'a affirmé la Maison-Blanche jeudi, précisant que le gouvernement israélien avait accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu formulée par les États-Unis, alors que le Hamas a indiqué que cette proposition ne répondait pas à ses demandes. Les précisions de Julia Ganancia.
Selon la Maison-Blanche, le gouvernement israélien aurait accepté la proposition de cessez-le-feu formulée par les États-Unis, un accord que le Hamas n'a pas encore accepté. Le groupe terroriste avait indiqué un peu plus tôt dans la journée de jeudi étudier la proposition. Alors selon les premiers éléments, le cessez-le-feu porte sur une suspension des combats de 60 jours, l'assurance de négociations sérieuses pour une trêve prolongée et la garantie qu'Israël ne reprendra pas les frappes une fois tous les otages israéliens libérés des tunnels du Hamas. Le Hamas, de son côté, libérerait les derniers otages encore vivants et rendrait les derniers corps. 57 Israéliens restent retenus à Gaza, dont au moins 34 ont été tués pendant leur captivité. En échange, 1100 prisonniers palestiniens seraient libérés, dont 100 sont emprisonnés pour avoir participé à des attentats terroristes. L'accord prévoit aussi un élargissement de l'accès du territoire à l'aide humanitaire. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Au sujet du conflit en Ukraine, la Russie a écarté vendredi l'idée d'une rencontre proposée par la Turquie entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump sous l'égide de Recep Tayyip Erdogan, conditionnant tout sommet de ce type à l'obtention des résultats dans des négociations avec Kiev. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en visite à Kiev, avait proposé plus tôt que la Turquie accueille une rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan. Volodymyr Zelensky avait déjà proposé de rencontrer son homologue russe en mai, puis d'organiser un format tripartite incluant les présidents américains, mais le Kremlin n'avait pas donné de suite. Moscou a en revanche proposé à Kiev de se retrouver pour de nouveaux pourparlers directs lundi à Istanbul après un premier rendez-vous peu fructueux le 16 mai dans la mégalopole turque. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
C'est Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a annoncé ce nouveau round de négociations entre Moscou et Kiev, non sans remercier la Turquie, les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour leur soutien dans ce processus. Lundi, lors de cette deuxième séance de pourparlers directs, Moscou présentera un mémorandum exposant les éléments qui, pour la Russie, devraient permettre de trouver une solution durable au conflit qui l'oppose à l'Ukraine depuis plus de 3 ans. Son contenu n'a pas été divulgué, mais il y a fort à parier qu'il contient au minimum des annexions de territoires et la neutralisation de l'Ukraine dans le but de redéfinir une architecture de sécurité européenne qui préserve ce que Moscou considère relever de ses intérêts vitaux ou existentiels. Mi-mai, après moins de 2 heures de pourparlers, les parties avaient convenu d'un échange de prisonniers selon la formule 1000 contre 1000 qui s'est matérialisé le week-end dernier en dépit d'importants bombardements des deux côtés. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
L'Iran a démenti vendredi un rapport des renseignements autrichiens selon lequel Téhéran poursuit son programme nucléaire militaire au moment où le pays est engagé dans des délicats pourparlers avec les États-Unis. La Chine et le Japon ont déclaré vendredi avoir progressé dans les règlements de leurs différends liés au rejet en mer des eaux usées de la centrale de Fukushima, ouvrant ainsi la voie à une reprise du commerce des produits marins japonais vers la Chine. Et parlant du commerce, aux États-Unis, les droits des douanes de Donald Trump vont pouvoir rester en place, au moins provisoirement. C'est la décision prise jeudi par une cour d'appel américaine. La veille, un tribunal avait en effet gelé la plupart des taxes douanières décidées par le président américain, estimant que celui-ci avait outrepassé ses droits. Une victoire donc, mais qui pourrait n'être que temporaire pour l'administration en place. À New York, Loïc Lowry.
Le 2 avril, en annonçant ses taxes dites réciproques contre le reste du monde, Donald Trump évoquait un jour de la libération, mais le président avait sans aucun doute crié victoire beaucoup trop tôt. Une cour d'appel l'a certes autorisé à maintenir les droits de douane suspendus moins de 24 heures auparavant, mais la décision n'est que provisoire le temps que le tribunal se prononce sur le fond, et au terme de ce ping-pong judiciaire, le milliardaire est tout sauf assuré de l'emporter, y compris si l'affaire venait à remonter jusqu'à la Cour suprême. Dans l'immédiat, les tarifs douaniers de Donald Trump bénéficient donc bien d'un sursis, mais leur avenir est entre les mains des juges au grand désarroi du président, lui qui pourrait se voir privé de son plus important levier de pression, ainsi que d'une manne censée absorber le coût abyssal de sa grande loi budgétaire. New York, Loïc Lowry, Radio Vatican.
À ce sujet, l'Union européenne a affirmé vendredi être pleinement investi dans les négociations avec les États-Unis sur les taxes douanières.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.